Le cœur humain est le champ de bataille où s'affrontent presque continuellement le bien et le mal. Tout homme réfléchi, qui fait le bilan de ses chutes et de ses défaites morales et spirituelles, se rend compte que son plus grand ennemi se trouve tapi au fond de lui-même. Ce sont les penchants de son cœur charnel, ce sont les convoitises et la vaine gloire qui dominent trop souvent en lui et qui déterminent ce qu'il est. Avec Dwight Moody, il peut dire « J'ai eu plus de difficultés avec moi-même qu'avec toute autre personne que j'ai jamais rencontrée. » Daniel Robs écrit dans le même esprit « Il n'est pas de forteresse plus difficile à abattre que notre propre complicité. Car cette complicité porte un autre nom dans un autre langage, elle se nomme péché. Et pour la vaincre, l'homme est faible. » Même l'apôtre Paul, qui fut pourtant un des plus saints et des plus consacrés des serviteurs de Dieu, avait une lutte à livrer contre les dispositions mauvaises qui risquaient de prendre le dessus en lui. « Moi donc, écrit-il aux Corinthiens, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il est bien évident que l'apôtre ne recommande pas ici la pratique de la mortification du corps que préconisent certains ordres monastiques. Dans un autre texte, il fera d'ailleurs allusion à ces pratiques cruelles en disant que ce culte volontaire de l'humilité et du mépris du corps a une apparence de sagesse, mais il n'est sans aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair. Traiter durement son corps, dans le langage de Paul, c'est le dominer par une activité spirituelle prépondérante, quitte à s'imposer des souffrances physiques pour remplir sa mission. Il compare dans ce texte le combat chrétien à l'entraînement rigoureux des athlètes avant l'épreuve dans l'arène. Dans une autre lettre adressée aux Romains, l'apôtre explique la raison de cette lutte continuelle en nous. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, ici il parle de tout homme livré à lui-même sans la grâce salvatrice et sanctifiante de Dieu, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. On ne peut exprimer plus clairement la douloureuse impuissance de l'homme à vaincre le mal tout seul. Ces penchants vers le mal, Paul les appelle la chair, et il nomme les aspirations de l'homme vers le bien, vers l'accomplissement de la loi divine, l'esprit. C'est ainsi qu'il déclare « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Ici encore, le texte est clair. Il y a une opposition irréconciliable entre la chair et l'esprit. « Marchez selon l'esprit, » Paul écrit-il encore aux Galates, « et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation de la loi de Dieu. » À ce point, l'apôtre dresse une liste des œuvres de la chair, qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, la querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, ajoute-t-il avec véhémence, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais comment pouvons-nous échapper à la condamnation de la loi divine et à cette tyrannie de la chair? Comment surmonter nos faiblesses humaines, par lesquelles nous nous enlisons toujours plus dans le mal? Comment remporter la victoire sur la chair et le péché? L'apôtre nous a déjà prévenu que c'était là une tâche impossible à l'homme seul. Quand il veut faire le mal est présent. Lorsqu'il veut éviter le mal, il succombe malgré lui. Accablé par le poids de son péché qui s'attache à lui, tel un cadavre lié sur son dos, et se trouvant dans l'impossibilité de s'en décharger, le pécheur s'écrie par la bouche de l'apôtre « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est un cri de désespoir. C'est ici que la grâce de Dieu intervient et pourvoit en la personne et l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ la solution à cette angoissante situation. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur », s'exclame triomphalement l'apôtre Paul. « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, c'est-à-dire m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Notons que ce conflit entre la chair et l'esprit ne s'engage vraiment que lorsque l'homme a pris conscience de ses responsabilités vis-à-vis de Dieu, donc de son état de délabrement spirituel. Auparavant, il n'y avait virtuellement aucune révolte, aucune résistance à la chair, aucun conflit réel. La chair se donnait libre carrière et prenait toutes les initiatives. Or, celui qui a pris la décision de remonter le courant, de résister, de se défendre contre la tyrannie de la chair, ne peut espérer réussir que s'il prend résolument et humblement la direction de la croix. C'est là qu'il trouvera la victoire. En effet, Jésus nous libère de la condamnation du péché, en satisfaisant à la justice de Dieu que le péché a offensé. La justice exige que toute transgression, toute désobéissance soit rétribuée. Dieu, pour être juste, ne pouvait donc pas laisser impunis les péchés que nous avions commis. Mais Jésus, expression de la miséricorde du Père, est devenu lui-même, pour nous, la victime expiatoire. Il a été notre représentant au calvaire, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. À cause de cette mort expiatoire, Dieu peut être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Jésus nous libère de l'esclavage du péché par notre obéissance à l'Évangile. « Ne savez-vous pas, demande l'apôtre Paul dans une de ses lettres, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Nous savons, d'après le contexte, que cette obéissance dont parle l'apôtre Paul comprend la mort au péché par la foi et le repentir, ainsi que l'ensevelissement avec Christ dans les eaux du baptême pour ressusciter avec lui encore en nouveauté de vie. Jésus nous libère de la puissance du péché par l'influence sanctifiante de son Esprit Saint qu'il fait demeurer dans nos cœurs par la foi. Cet Esprit est promis à tous ceux qui lui obéissent. Et il nous aide dans nos infirmités, c'est-à-dire dans notre indigence spirituelle, notre vulnérabilité au tiraillement de la chair, en un mot, ce que nous sommes comparativement à ce que Dieu voudrait que nous soyons. En marchant selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Ceux qui sont à Jésus-Christ, déclare l'apôtre Paul, avec force, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Par l'aide efficace de l'Esprit, nous produisons dans notre vie et dans notre caractère, les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais me direz-vous, je ne saurais jamais me défaire de mes vices et de mes mauvaises habitudes. Je ne saurais jamais mener une vie vraiment chrétienne, selon les exigences du Christ. Et vous aurez raison, si vous ne comptez que sur vous-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, avait dit Jésus à ses disciples. Mais celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sans lui, notre force n'est que faiblesse et notre sagesse n'est que folie. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Enfin, Jésus nous délivre des conséquences du péché par la résurrection. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Mais Jésus, en ressuscitant lui-même d'entre les morts, est devenu les prémices ou la garantie de la résurrection de tous les hommes. « Comme tous meurent en Adam, écrit Paul aux Corinthiens, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Cette résurrection annulera les conséquences du péché d'Adam, mais seuls ceux qui auront cru et qui auront obéi à la parole du Christ seront libérés de la mort éternelle qui est la seconde mort. Soulignons avant de terminer que la victoire sur la chair et le péché n'est pas la récompense d'une réalisation personnelle. Il ne faut donc pas nous fier à un prétendu mérite moral ou à nos bonnes œuvres pour notre salut. Encore moins faut-il nous appuyer sur notre affiliation à telle église, ou notre adhésion à telle religion, ou notre fidélité à telle tradition pour accéder à cette victoire. C'est uniquement par le Christ, en vertu de son sang, par notre soumission et notre fidélité envers lui, par la foi et l'obéissance à sa parole, que nous l'obtiendrons. Le Christ a déjà tout mérité pour nous. Il ne nous reste plus qu'à faire notre devoir. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.